Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Miroir, miroir, épisode 2. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reçois une invitée de marque, Mona Chollet, journaliste au Monde diplomatique et écrivaine, auteure notamment de Beauté fatale, Chez soi et tout récemment de Sorcière. Donc, comme vous l'aurez sans doute deviné, avec Mona Chollet, on va parler de beauté, de l'industrie de la beauté, mais aussi de son impact sur la société. Bonjour Mona Chollet.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer comment vous avez eu l'idée de Beauté fatale, qui est sortie en 2012
Je suis journaliste déjà, je ne suis pas ni sociologue, ni philosophe, ni chercheuse, ni quoi que ce soit de ce genre-là. Donc... J'ai fait des études universitaires assez brèves, on va dire. J'écris pas d'un point de vue d'universitaire ou de chercheuse. J'ai pas vraiment d'autorité de ce point de vue-là. Mais les essais viennent un peu à partir d'interrogations personnelles, en fait, que j'essaye ensuite de prolonger, d'étayer, de partager avec les lecteurs. Donc Beauté fatale, c'était vraiment un sujet qui me travaillait depuis très longtemps, c'est-à-dire que ça remonte à l'adolescence, en fait. J'étais vraiment une ado très travaillée par toutes ces questions-là, des normes de beauté. Enfin, j'étais très fascinée, en fait, par l'univers de la mode, des magazines. Enfin, je consommais de toute façon énormément de médias en général, enfin, de presse. Mais aussi beaucoup, enfin en particulier, beaucoup de magazines féminins et de magazines de mode.
Et du coup, mais ce sujet, en 2012, c'était pas un sujet dont on parlait énormément. Donc ça paraît quand même presque précurseur d'en parler en 2012.
Oui, en fait, je l'ai fait à cause de ça, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un manque. Enfin, c'était une insatisfaction personnelle, c'est-à-dire que... j'avais à la fois une fascination, un rejet par rapport à cet univers. Enfin, je passais par des phases d'adhésion totale et en même temps de rejet total, enfin de colère, etc. Donc, j'avais besoin de mettre tout ça à plat, de le débrouiller, d'abord pour moi-même. Et je trouvais rien, en fait, je trouvais pas de relais pour m'aider à faire ça. C'est-à-dire que il y avait pas vraiment je trouvais des choses très éparses, très partielles. Enfin, par exemple, des critiques sur la part de publicité dans les magazines féminins et enfin, la confusion entre le rédactionnel et le publicitaire, qui sont bien sûr des choses vraies, mais qui n'étaient pas suffisantes à mes yeux, en fait.
Et donc, quand on lit votre livre, de manière générale, on comprend que l'industrie de la beauté et de la mode a pour rôle, en fait, d'asservir les femmes. Est-ce que c'est comme ça que vous pourriez résumer ces recherches ?
Je ne sais pas si je le résumerais comme ça. Il y a un mélange un peu étrange, parce que c'est vrai que ça fait quand même très longtemps que les femmes sont assignées à la beauté et inversement, enfin, depuis la nuit des temps, on va dire. Donc, évidemment, ça a pris une autre forme, une autre ampleur avec... Voilà, le capitalisme, la société de consommation, les médias qui vont avec. Donc, évidemment qu'il y a un lien, mais je ne sais pas si on peut... Enfin, c'est quelque chose qui a été en partie intégré par les femmes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a... Ce n'est pas quelque chose qu'on nous force à faire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on intègre vraiment dès l'enfance. Enfin, il y a une sorte de conditionnement, d'idée comme ça que la beauté pour les femmes est spécialement importante et une beauté très cadrée, en fait, très définie très précisément, à laquelle il faut correspondre. Et ça détermine une valeur, une partie vraiment énorme de notre sentiment, de notre propre valeur et aussi de la valeur que les autres nous accordent, enfin certains autres en tout cas. Donc oui, je pense que l'industrie de la beauté relaye simplement et amplifie énormément ce biais dans la culture, en fait, qui lui préexiste. J'ai souvent entendu, on me dit, enfin, quand on dénonce certaines, je sais pas, que ce soit les soutiens-gorge pour rembourrer pour les fillettes ou n'importe quoi d'autre, enfin, tout le monde, enfin, parfois on vous répond, bah oui, mais l'industrie, il faut bien qu'elle vende. Et je trouve que c'est un peu court comme réponse parce qu'on pourrait vendre plein d'autres choses, en fait. Vendre par. En entretenant l'insécurité des femmes et leur insatisfaction et leur névrose, c'est une manière de vendre parmi d'autres. Donc, il y a une raison pour laquelle ça se fait précisément par ce biais-là.
Oui. Mais pourquoi cette industrie, elle a décidé que la femme idéale, entre guillemets, serait blanche, grande, mince et blonde, pour le coup?
Bon, il y a plusieurs choses là-dedans. Je crois que d'abord, simplement, c'est une industrie occidentale au départ. Enfin, elle correspond à l'hégémonie de l'Occident et de ses valeurs et de ses représentations dans le monde. Donc, on peut même relier ça aux publicités qu'il y avait à l'époque coloniale pour des savons. Enfin, on voyait des enfants ou des hommes ou des femmes noires qui utilisaient ce savon et qui ressortaient tout blancs. Enfin, il y a une imagerie. Coloniale, raciste, qui remonte à très loin. Donc, aujourd'hui, quand on voit des femmes blanches et blondes en couverture de magazines indiens, asiatiques, on peut facilement relier ça à la même logique. Mmh. Ouais, c'est assez frappant de voir que, je sais pas, sur 12 couvertures de Vogue dans une année, en Chine, il y en a 8 avec des femmes blondes. Enfin, c'est quand même assez étonnant.
Mais en 2018, vous avez l'impression que les choses ont changé ou pas, depuis que vous avez écrit ce livre?
Non, pas tellement.
En apparence, si, mais au fond, pas tellement.
Non, après, je trouve qu'il y a beaucoup plus de critiques, en fait, de réactions assez fortes. Si on cherche une critique de cette industrie, on la trouve. C'est peut-être... la grande différence, enfin, notamment pour moi qui ai grandi, qui était ado sans Internet, qui était vraiment seule face à toutes ces productions. Finalement, il n'y avait que les conversations avec les amis, les profs, enfin, pour relativiser tout ça. Donc, c'était un peu maigre et insuffisant. Aujourd'hui, il y a plein de blogs, enfin, même sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a plein de moyens, je pense, quand on cherche un discours critique sur cette industrie, de le trouver et puis de s'en emparer. Mais après, j'ai l'impression que fondamentalement... Alors oui, évidemment, pour une part, l'industrie, enfin, les magazines sont obligés de tenir compte parfois de ces critiques. C'est vrai que parfois, ça les fait reculer. On obtient qu'une publicité soit retirée.
Notamment à cause des réseaux sociaux qui ont un impact beaucoup plus fort qu'auparavant.
Oui, c'est vrai. Ça, je pense que ça... Non, c'est vrai. Ça, il faut admettre que ça change la donne. Enfin, je me souviens aussi du fameux article de Elle sur... la black fashion, enfin voilà, qui avait suscité un tollé, et du coup le tollé s'est répercuté aussi dans les pages du magazine, qui avait fait une sorte de mea culpa. Et bon, ça c'était une opération vraiment intéressante, c'est-à-dire que on se rend compte que aujourd'hui on a les moyens de répliquer aux médias dominants. Donc oui, effectivement, là-dessus il y a une avancée assez forte. Après, sur la logique de fond, je suis pas sûre que ça change vraiment.
Alors, donc, y a un passage dans votre livre, page 51, que je voulais lire. Et je voulais avoir votre avis dessus, qui est sur le pretty privilege, qui est donc le fait que quand on est jolie, en tout cas quand on répond aux codes normés de la société, on a plus de chances dans la vie. Et donc, l'extrait, c'est... Apprendre à une petite fille à être féminine, c'est s'assurer qu'elle grandira en étant bien dans sa peau. Arguer sur Facebook une cliente du Petit Bateau lors des débats suscités par les bodys de la marque. Donc en gros, l'idée, c'est de se dire que si on est féminine, si on est jolie, si on représente les codes de la beauté, on aura plus de chances dans la vie.
Si je me rappelle bien, je le citais pour le contester, mais non, je crois que c'est assez terrible de raisonner comme ça parce que de manière superficielle, on peut penser que c'est vrai, c'est-à-dire qu'une fille élevée comme ça sera mieux acceptée socialement, mais en même temps, c'est-à-dire... Bon, après, évidemment... Ouais, je pense que la féminité, c'est souvent un nom de code pour une forme de soumission, malheureusement. C'est-à-dire, c'est intégrer les regards posés sur soi, c'est passer son temps à se demander de quoi on a l'air, voilà, si on est acceptable, si on est désirable, enfin, et donc avoir une attitude entièrement tournée vers le ressenti des autres et pas vers son propre ressenti. Et ça, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui vous rend très faible, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire que, après, peut-être qu'effectivement, si on est plus attentive à ce qu'on ressent soi-même, si on s'en fiche un peu de à quoi on ressent, mais qu'on se soucie plus de ce qui nous passionne, ce qui nous intéresse, si on est plus concentré sur sa perception des autres et pas sur la perception que les autres ont de nous, peut-être que ça peut un peu froisser au départ l'entourage, mais je pense que sur le long terme, c'est beaucoup plus solide. Ça permet de beaucoup mieux résister à beaucoup de choses. Je crois que cette attitude qu'on décrit comme féminine, c'est aussi une attitude qui rend très vulnérable à la manipulation, voilà, à l'intimidation. Donc,
Mais est-ce que les autres, ce ne seraient pas les hommes ? En tout cas, dans une société qui est quand même très hétéronormée et pour qui, en fait, les femmes doivent tout le temps se plier, que ce soit à travers la manière dont elle s'habille, la manière dont elle se présente. Est-ce que ce ne serait pas justement ce regard-là, ce regard patriarcal ?
Ouais, c'est une question intéressante parce que j'arrive jamais vraiment à la trancher. Bon, en plus, c'est très difficile parce que des hommes, il y en a plein. Enfin, ils sont pas tous faits sur le même modèle. Mais globalement, j'ai l'impression que évidemment, il y a un grand nombre d'hommes qui adhèrent à ces canons de beauté promus par l'industrie de la mode, de la cosmétique, par l'imagerie de, médiatique, culturelle, etc. Ils sont très poussés à le faire, évidemment. Mais je crois qu'il y en a aussi beaucoup qui dépassent assez rapidement cette esthétique et cette manière de voir les femmes. Et qui finissent par aussi s'en détacher, par vouloir autre chose. Et c'est intéressant de voir que parfois aussi les critères qu'on inculque aux femmes, qu'on leur met dans la tête, font complètement obstacle à leur relation amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a des situations absurdes, c'est-à-dire où elles s'imaginent
que l'homme veut ça, voilà. Alors que pas du tout.
Oui, ouais. Et ça les... Peut-être qu'avec l'âge aussi, on se rend mieux compte. Là, je me rends compte que j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Oui, mais en fait, je me rends compte que les hommes, ils s'en foutent. » Après 20
j'ai
ans
fait tout
ou 30
ça pour
ans.
Rien, en fait.
Exactement. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est tragique, souvent, quand on pense... rien que pour avoir une relation sexuelle, les femmes intègrent l'idée qu'il faudrait qu'elles correspondent à ce modèle-là. Et si elles n'y correspondent pas, elles veulent la lumière éteinte, elles paniquent totalement, elles n'arrivent pas du tout à profiter du moment parce qu'elles sont complètement obsédées par leur complexe. Et je crois qu'il y a plein d'hommes qui préfèrent une partenaire... qui est à l'aise, qui est heureuse d'être là.
Qui
a confiance en elle. D'accord. Bah oui.
mais du coup, est-ce que toute cette dictature, elle n'est pas en train de changer de plus en plus ? Parce qu'aujourd'hui, on a des rapports qui sont plus flous en termes de genre. On est moins dans cette image très linéaire de une femme, c'est comme ça, un homme, c'est comme ci. Est-ce que justement, on est en train d'arriver vers autre chose ?
Bonne question, je sais pas. Parfois, j'ai l'impression, j'ai peur d'être trop optimiste, c'est-à-dire de prendre les codes, l'évolution des codes dans mon petit milieu pour quelque chose qui serait plus largement partagé. Et je crois qu'il y a beaucoup d'illusions là-dedans, en fait. Enfin, je crois qu'on se rend toute compte quand on est... quand on est avec nos amis, nos collègues, dans nos milieux, on peut avoir certains codes et certaines visions des choses qui, en fait, sont complètement balayées dès qu'on se retrouve simplement à une réunion de famille ou dès qu'on se retrouve simplement un peu hors de notre milieu. Et après, peut-être qu'il y a aussi d'autres... peut-être qu'il y a aussi plusieurs versions de la féminité, c'est-à-dire que... Je ne suis pas sûre que je balayerais complètement... j'ai le souvenir de femmes qui m'ont énormément marquée dans mon entourage, qui étaient des femmes très féminines, mais pas du tout des femmes faibles, en fait. C'est-à-dire qui étaient très... très corpulentes, avec des vêtements très amples, très spectaculaires, des longues chevelures, des beaux bijoux, un maquillage très recherché, du parfum très capiteux, comme ça. Et elles ne me donnaient pas du tout une impression d'aliénation ou de faiblesse ou de soumission. Donc, je me dis que la féminité, ça peut être un répertoire parmi d'autres, en fait. C'est-à-dire, parmi, voilà, ça peut être adopté par certaines, rejeté par d'autres. Je pense que toutes les palettes sont possibles, en fait.
En lisant votre livre, on se rend compte aussi qu'il y a un lien, en fait, entre toutes les industries. Donc, par exemple, l'industrie du sport qui voudrait nous faire absolument mincir, l'industrie de la chirurgie esthétique. Enfin, est-ce que, du coup, c'est une sorte de tentacule qui est impossible d'y échapper ?
Ouais, je pense que c'est des traductions commerciales différentes d'une même culture, en fait. Donc, après, le sport, c'est un peu... Bon, la chirurgie esthétique, je suis toujours très... Enfin, je trouve ça très frappant de voir comment le discours qui est tenu autour de ça, notamment dans les magazines, est totalement déréalisant, en fait, donne une idée de quelque chose d'un peu magique. C'est-à-dire que, voilà...
On aurait même l'impression, parfois, que c'est un acte féministe, entre guillemets, se dire, voilà... les chirurgiens esthétiques, en fait, ils aident des femmes qui sont sont tourmentées, qui se sentent mal dans leur peau, donc les aident en fait à se retrouver, à prendre confiance en elles, etc. Mais c'est pas vraiment le cas finalement.
Je sais pas. J'aurais du mal en fait à donner un avis vraiment tranché parce que je veux pas non plus l'exclure complètement. Enfin. Peut-être que dans certains cas, ça rend effectivement service à des femmes. Peut-être que ça corrige un défaut qu'elle trouvait vraiment très handicapant et que ça peut les libérer. Mais souvent, j'ai lu aussi des choses très intéressantes sur le regret de la chirurgie esthétique, c'est-à-dire des opérations réussies qui étaient regrettées par les femmes qui les avaient faites, qui disaient qu'elles avaient un sentiment de perte d'identité, en fait, qu'elles se préféraient avec leurs défauts et qu'elles avaient une sorte de nostalgie, que ça avait brouillé quelque chose dans leur sentiment de leur propre identité. Et d'une manière générale, oui, la façon dont ça nous est vendu me paraît très mensongère. C'est-à-dire, je pense que ça fait l'impasse aussi sur la violence de l'acte. Enfin, quel que soit le ressenti qu'on a après, c'est quand même une opération, c'est quelque chose... c'est pas rien, c'est une narcose, c'est voilà, on taille dans la chair. Donc, je me méfie beaucoup des discours qui rendent ça anodin et qui font complètement l'impasse sur... la douleur, la violence intrinsèque de l'acte.
D'ailleurs, dans votre livre, page 205, je cite « Non contents d'exploiter les peurs et les fragilités de leurs clientes, certains vont jusqu'à affirmer que leur activité est féministe, car elle permet aux femmes d'acquérir une meilleure estime d'elles-mêmes.
» Ouais, c'est très ambigu, évidemment, parce que... Oui, peut-être que dans une société qui déteste les femmes, le fait de vous faire opérer vous donnera une meilleure estime de vous-même, c'est possible. Mais peut-être qu'il faut se méfier de l'approbation sociale et ne pas forcément rechercher l'approbation sociale à tout prix. Enfin, je pense que ça peut être très... dommageable, en fait. Enfin,
oui. Difficile aussi dans une société où... Enfin, quoi qu'on fasse, en fait, on a l'impression que ça va pas. Ça veut dire que si on se maquille, si on aime la mode... Ça va pas, mais en même temps, si on se maquille pas, si on n'aime pas la mode, ça ne va pas non plus.
Ouais.
Et ce qui me frappe ces derniers temps, c'est aussi toute cette mode du retour au naturel où en fait, on pousse les femmes à sortir sans maquillage, à se trouver belles au naturel. Mais en fait, c'est aussi une autre forme de pression, parce que déjà, qui concerne principalement des personnes privilégiées, parce qu'il faut aussi avoir la capacité de pouvoir le faire, parce qu'on peut se dire, voilà, il n'y a que des personnes belles, ou en tout cas considérées comme belles naturellement, qui seraient acceptées, mais aussi toutes les personnes qui peuvent acheter tous ces produits, toutes ces crèmes, tous ces d'autres formes d'apparat qui ne sont pas du maquillage mais des produits de beauté pour entretenir cette beauté naturelle.
Oui, c'est très pervers, c'est une sorte d'épreuve de vérité, c'est-à-dire que vous pouvez même pas, on peut même pas avoir une peau affreuse et la cacher sous une tonne de maquillage. Il faut vraiment en plus prouver que même le visage nu, on est parfaite. Donc c'est vrai que la célébration du naturel cache peut-être autre chose, en fait. Je ne sais pas si... cette logique de la double contrainte, elle est très présente, en tout cas. C'est-à-dire, effectivement, si on se maquille, on est frivole et on est une écervelée. Et si on ne le fait pas, on se néglige et on n'est pas féminine. Et... Donc ça, je crois que, d'une manière générale, effectivement, quoi qu'on fasse, en général, on fait faux. Donc,
oui. Mais il y a d'autres formes de retour au naturel qui sont plus intéressantes, notamment pour... les femmes qui ont les cheveux blancs ou les femmes noires, par exemple.
Ouais,
là, c'est
ouais,
un
bien
autre
sûr.
Type de,
ouais.
de naturel où c'est plus libérer un peu votre vrai vous. Mm-hmm. Mais là aussi, ça peut avoir ses limites. Parce que parfois, il y a cette idée de... Bah, du coup, si j'ai quand même envie de me teindre les cheveux ou
ouais,
de
bien sûr.
Mettre une
ouais.
perruque, est-ce que c'est un problème ?
Non, bien sûr que non. Non, c'est sûr. C'est-à-dire que... Même si on produit un discours critique, des injonctions et des artifices, c'est une société qui est dure. Enfin, le regard social est très dur pour les femmes, donc je crois que c'est vraiment à chacune de juger ce qu'elle a envie d'assumer déjà, parce qu'après, il y a aussi simplement des convenances personnelles, des types de corps, de physique différents, de goûts différents. Donc, à la fois sur cette base-là, sur la base de ce qu'on se sent le courage d'assumer, chacune peut juger ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle se sent capable de faire, accepter une norme, en rejeter une autre. Je crois que là, vraiment, chacune fait son bricolage et qu'il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus, évidemment. Mais je pense que c'est toujours bien d'essayer de produire un discours critique sur pourquoi on veut nous obliger à faire certaines choses. C'est-à-dire, après, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut prendre le contre-pied et faire exactement l'inverse. évidemment pas. Mais je crois que c'est toujours utile. Ça peut nous servir de garde-fou, ça peut mieux nous armer. Intérieurement, quel que soit le choix qu'on fait après, en fait.
Alors, donc, il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement. C'était une fois sur Twitter, vous parliez de l'écrivaine d'origine nigériane, donc qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie, où en gros, elle est devenue égérie d'une marque de beauté anglaise qui s'appelle Boots, et vous vous étiez étonnée de ce choix. Pourquoi ?
Ouais, j'étais déçue, je crois.
D'accord.
Non, c'est une auteure que j'adore. Enfin, j'ai tout lu d'elle et... oui, j'étais déçue, je crois. Enfin, disons que je ne comprenais pas, en fait, pourquoi, quand on a une relation aussi riche que celle d'une écrivaine, d'une romancière avec ses lectrices et ses lecteurs, qu'on déploie un talent aussi profond et admirable. Je ne comprenais pas le besoin d'y ajouter une relation aussi pauvre que celle d'une personne qui fait de la publicité par rapport aux personnes à qui s'adresse cette publicité. Enfin, passer de ce talent-là à regarder ce fond de teint est super, et si vous mettez le même, vous serez aussi belle que moi. Je trouvais ça assez atterrant.
Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que, du coup, en tant que femme noire, notamment d'origine africaine, c'était pas quelque chose aussi de positif de voir un modèle de ce type ? Notamment, enfin, dans ce podcast, on parle beaucoup de représentation.
Ouais.
Et du coup, cette forme de représentation différente, de se dire, OK, je suis écrivaine, je me maquille, j'aime la mode, mais regardez en fait ce que je suis derrière, enfin, ce que je représente intellectuellement, socialement.
Oui, mais je ne suis pas sûre qu'elle avait besoin de passer par la pub pour faire ça, en fait. C'est-à-dire que... Enfin, son discours, elle dit beaucoup, on peut être à la fois féminine et féministe, ce qui est évidemment vrai, mais qui me paraît toujours un peu court, en fait. C'est-à-dire, je ne comprends pas... Enfin, ça me semble un peu... Je trouve qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le rapport des femmes à la beauté que simplement ça. Et il me semble qu'être féminine et faire de la pub pour du fond de teint, c'est deux choses différentes. C'est pas... Ou assister au défilé Dior et... Enfin, après, je comprends... Chez n'importe quelle femme, d'ailleurs, racisée ou pas, la fascination pour l'univers de la mode et de la beauté, et puis cette espèce de joie un peu... enfin, on est toutes fascinées par cet univers d'une certaine manière. Donc, je pense que quand on vous propose d'y entrer et de d'en faire partie, c'est très difficile d'y résister. Et peut-être effectivement encore plus pour une femme noire. Enfin, notamment, j'avais très bien compris quand Lupita Nyong'o était devenue égérie pour Lancôme. Je voyais bien. Elle racontait beaucoup comment dans son enfance, elle racontait notamment que le soir elle s'endormait et elle priait Dieu pour se réveiller plus claire de peau le lendemain matin. Donc, je vois bien la victoire que ça représente pour elle et pour beaucoup de femmes noires. Mais dans le cas de Chimamanda Ngozi Adichie, je suis pas sûre de voir la même démarche. D'accord. En fait. Là encore récemment, il y avait un portrait d'elle dans Le Monde et puis il y avait des très belles photos évidemment, mais chaque fois c'était précisé que sur cette photo elle porte du Prada, du Dior
et en fait c'est les relations entre du coup publicité, capitalisme et ce que ça représente qui vous dérange finalement.
J'ai l'impression de voir l'extension aux écrivaines. Alors peut-être que c'est juste un cas isolé, mais malgré tout, j'ai pas vraiment le souvenir d'autres cas. Peut-être que je me trompe, mais tout d'un coup, c'est une écrivaine qui se comporte comme une actrice. Et évidemment, pour les actrices, d'une certaine manière, ça se comprend un peu mieux parce que leur métier, c'est déjà l'image. Et puis, il y a quand même depuis toujours cette affinité entre le cinéma et l'industrie de la beauté et de la mode. Donc, c'est une logique qui, à mon avis, s'aggrave, mais qui est quelque part pas très étonnante. Et c'est vrai que j'aimerais bien, en tant que lectrice, en tant que femme, qui reste des personnages d'écrivaines qui s'en foutent complètement de quoi elles ont l'air et qui puissent quand même exister et avoir du succès. Et je trouve dommage, en fait, cette espèce de d'homologation à un modèle de féminité très lisse, finalement, très, très peu intéressant.
D'accord. Il y a autre chose qui est hyper intéressant dans votre ouvrage, c'est ce lien entre beauté et minceur, comme si en fait les deux ne pouvaient pas exister l'un sans l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je crois que ça vient de très loin, ça vient d'abord d'un mépris pour le corps, autant masculin que féminin probablement, qui remonte... très loin, et bon, peut-être le christianisme est un moment décisif à ce sujet, c'est-à-dire l'idée du corps comme quelque chose qu'il faut, comme un ennemi, qu'il faut dompter, qu'il faut dépasser, qu'il faut mortifier, dont il faut apprendre à négliger les besoins. Cette idée toujours d'une pureté à atteindre qui passerait par un dépassement du corps, en fait, par une négation du corps. Et je crois que chez les femmes c'est encore plus fort parce que le fait d'avoir un corps a toujours été attribué aux femmes. Enfin, on voit bien, il y a des discours complètement haineux dans la tradition chrétienne sur de religieux, de curés qui estiment que les femmes sont répugnantes parce qu'elles ont un corps, comme si eux n'en avaient pas, en fait. Et du coup, je pense que on a une sorte de rapport assez violent. On hérite d'un rapport très violent à notre corps. Et peut-être l'idée aussi qu'il ne faut pas que ce corps prenne trop de place, parce que les femmes elles-mêmes ne doivent pas prendre trop de place. Donc c'est vraiment l'idée de se faire toute petite au sens complètement littéral. et puis je crois que ça envoie un message de discipline, en fait. C'est-à-dire qu'on est une femme qui sait tenir sa place, en fait, à tous les sens du terme, et voilà, qui va pas s'étaler, qui
D'accord.
va pas...
à votre avis, quel est le futur de tout ça ? Des dictats, de cette pression, en fait, qu'on met aux personnes, mais notamment aux femmes. Vers quoi ça tend, à votre avis ?
Je sais pas trop, évidemment, c'est toujours difficile à dire, mais... c'est vrai que moi, la nouveauté apportée par Internet m'a vraiment beaucoup frappée parce que j'ai l'impression d'avoir connu les deux systèmes, en fait. Et Et vraiment, je trouve qu'avec cet allemand mieux, enfin, simplement le fait de pouvoir mettre en circulation ses propres images et potentiellement les diffuser très largement, rien que ça, c'est assez fabuleux. Donc, je ne sais pas où ça nous mènera. Évidemment, Internet a les deux effets, ouais. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un renforcement des représentations dominantes, c'est-à-dire que du coup, elles ont un canal de plus par lequel passer. Et on s'aperçoit aussi, je crois que c'est un moment où on s'aperçoit aussi à quel point, quand on voit toutes les sur Instagram, ou les blogueuses mode, ou les youtubeuses, à quel point on a incorporé, la logique des magazines féminins, on se l'est complètement appropriée. En fait, on se retrouve avec un média à notre disposition et une des choses qu'on y fait, et pas la moindre, c'est de faire des conseils de cosmétiques et des conseils de mode. Et voilà, on se rend compte à ce moment-là qu'on est tellement marqué par tout ça et qu'on a, on a été vraiment complètement formaté par cette logique-là. Et en même temps, c'est aussi un outil pour contrer pour imaginer autre chose et diffuser autre chose. Donc c'est une espèce de guerre qui se joue là, de guerre des représentations, de guerre des logiques. Et,
Va gagner?
Non, c'est impossible à prédire.
Donc quels sont les conseils que vous donneriez aux personnes qui veulent sortir de tout ça, qui veulent sortir de cette pression sociale, de l'industrie, de la beauté et de la mode? Ou au contraire, ceux qui veulent y rester, mais peut-être avec quelque chose de moins... imposants, qui souhaitent y rester, mais de manière plus naturelle, comme si c'était un choix en fait personnel et moins quelque chose qu'on nous oblige à faire.
Je pense que quels que soient les choix qu'on fait, c'est toujours bien de réfléchir à tout ça, de partager autour de soi les interrogations que ça suscite, les doutes, les dilemmes. Et je crois que finalement, quoi qu'on fasse, ce que je leur dirais peut-être, c'est surtout de ne jamais croire les discours qui leur disent qu'ils sont moches, qu'ils sont dégoûtants et qu'ils ont besoin de tel produit ou de telle opération pour sortir de cet état. Je crois qu'il y a vraiment une violence très grande en fait dans cette industrie, souvent très insidieuse en fait. Enfin, le seul fait de nous montrer à longueur de temps des femmes hyper minces, sans rides, avec une peau qui a l'air d'être en vinyle ou en plastique. Je pense que rien que ça, c'est une violence, en fait. Parce qu'on assimile ces images de manière complètement insidieuse, en fait. Même si on n'y réfléchit pas, on les absorbe et elles finissent par constituer la norme par rapport à laquelle on se juge soi-même. Et évidemment que personne ne ressemble à ça. Et il n'y a pas de problème si on ne ressemble pas à ça. C'est normal. On est humain, on est en chair et voilà. Donc on est fait de chair et d'eau et pas de plastique. Donc voilà. C'est, je crois qu'il y a vraiment une... Enfin, il y a ce slogan que j'aime beaucoup qui dit « You are enough », vous êtes assez. Et je trouve que c'est tellement important de toujours s'en souvenir au moment où on se laisse communiquer un complexe quelconque.
Et du coup, pour le petit mot de la fin, sur votre dernier ouvrage qui est sorti le 13 septembre dernier, qui s'appelle Sorcière, je sais que dedans vous parlez, il y a quelques passages où vous parlez de représentation, de beauté, notamment par rapport aux cheveux blancs. Et,
Oui, à l'âge en général, voilà. En fait. C'est un sujet que j'avais pas énormément traité dans Beauté Fatale, pas complètement. Et j'avais envie d'y revenir, en fait. Donc, et c'est vrai que c'est un personnage de sorcière, en fait, la vieille femme. Enfin, je me suis rendu compte en faisant ce livre à quel point nos représentations des vieilles femmes sont tellement marquées encore par l'image de la sorcière. Et finalement, c'est une espèce d'ombre haineuse, finalement, qui plane sur les vieilles femmes. Et je crois que c'est important de remonter à l'origine de ces représentations pour essayer de les dissiper et de les tenir en respect, un minimum.
Merci Mona Chollet.
Merci à vous.
Merci à tous et à toutes. C'était l'épisode 2 de Miroir Miroir. Vous pouvez vous abonner sur iTunes, SoundCloud, Spotify, toutes les plateformes de podcast. Et si vous le voulez bien, vous pouvez laisser 5 étoiles. On se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.
binge.
Attendez, avant de partir, je voulais vous parler d'un podcast que j'aime beaucoup, beaucoup, qui s'appelle Les couilles sur la table, présenté par Victoire Tuaillon. Salut Victoire.
Salut Jennifer, merci, c'est cool que tu m'écoutes.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est si important de parler des hommes, des masculinités, de tout ça ?
En une phrase, c'est important parce qu'en fait, on parle jamais des hommes en tant qu'hommes. On fait toujours comme si les hommes, c'était des êtres humains universels, alors qu'ils sont aussi construits par des normes sociales et que c'est important de les examiner pour pouvoir être plus libre.
Donc si ça vous intéresse, ça devrait vous intéresser. Les couilles sur la table, c'est un jeudi sur deux sur Binge Audio et sur toutes les applis de podcast.
Merci Jennifer.
Binge.